Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Le changement de cap de vie, eh bien, il peut arriver à n'importe quel moment de sa vie. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Karima Nahia, bonjour.
Bonjour, Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui, Lala Karima, chbarak.
Super, alhamdulillah, Allahumma lak alhamd, alhamdulillah.
Alors, Lala Karima, toi tu es psychothérapeute, yak?
Exact, exact.
Alors, est-ce que tu es devenue psychothérapeute parce que tu as traversé tes ténèbres, comme tu le dis, ou bien c'est la psychothérapie qui t'a aidé à traverser tes ténèbres ?
En fait, c'est un peu les deux, parce que la psychothérapie m'a aidé à traverser mes ténèbres, et en traversant mes ténèbres, j'ai découvert la psychothérapie, donc c'est un peu les deux, quoi.
Ok. Alors, est-ce que tu avais une autre vie professionnelle avant ?
Oui, oui, oui. J'ai travaillé pendant 29 ans en entreprise. J'étais directrice des achats et supply chain. Je gérais des équipes. Mais je n'étais pas très heureuse, on va dire.
C'est incroyable, hein, quand même. C'est un changement de cap de vie complètement différent.
Oh, absolument. Absolument. Ouais. Complètement différent. C'est un changement complètement différent.
Mais comment tu as fait pour tenir 29 ans dans une vie qui ne te convenait pas ?
Ah ben, je vais te la résumer en une phrase. Tu connais un peu le hamster ?
Oui, qui tourne.
J'étais un peu comme un hamster qui travaillait. J'avais de très bons résultats. J'avais de très, très bonnes performances. Je réussissais à faire mes KPIs tranquillement. Mais je n'étais pas très heureuse. J'étais pas très, très, très heureuse.
Tu étais dans une multinationale ?
Oui, j'ai travaillé dans des multinationales et dans de très, très grands groupes marocains.
Ok.
J'ai travaillé dans de très grands groupes marocains.
Ok. Alors, quand tu dis, pendant 29 ans, je n'étais pas très heureuse. Bon, je performais, ok, mais je n'étais pas épanouie.
C'est très simple. J'avais tout le temps un bout de pizza à la main, deux téléphones qui sonnent, un PC devant moi, et les réunions, et les comités, et les boards, et tout ça. Et donc, du coup, je ne vivais pas. Je travaillais beaucoup, mais je ne vivais pas.
Ça avait quel goût de ne pas être heureuse ? Comment tu savais que tu n'étais pas heureuse, en fait ? Alors qu'en apparence, tu étais, selon les standards de la société, tu avais tout pour être heureuse.
Oui, tout à fait. J'avais tout sur le plan, on va dire, matériel, alhamdoulilah, pour être heureuse. Mais je n'étais pas heureuse dans la mesure où je travaillais, je prenais beaucoup de poids. J'étais très mal à l'aise dans mon corps. Je n'étais pas du tout bien. Et puis voilà.
Tu as une famille ? Tu as une vie de famille ?
Oui, 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 j'ai une famille. En fait, je n'ai pas d'enfants et tout ça, mais j'ai une famille quand même. J'ai une très bonne vie de famille, alhamdoulilah. Heureusement qu'il y a la famille.
Ok. Pourquoi je pose la question ? C'était aussi pour savoir, est-ce que finalement, tu arrivais à avoir du temps pour... Parce que quand on travaille autant dans un domaine aussi prenant, est-ce que tu avais le temps aussi pour les autres, pour un conjoint, pour des enfants, mais...
Oui, oh. Oui, oui, j'avais le temps pour le conjoint et tout ça, mais je faisais de très mauvais choix. Parce que je n'étais pas vraiment, je n'avais pas cet équilibre vie de famille, vie privée comme j'ai aujourd'hui.
Ok. À quel moment tu as décidé d'arrêter ?
En fait, l'idée d'arrêter n'était pas présente. Par contre, l'idée de transformation, elle y était depuis 2014, entre 2014 et 2016. Et il se passait des choses dans ma vie. Et j'avais commencé un peu à faire des thérapies sur moi. J'ai découvert la thérapie. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit... En fait, je me rappelle très bien de la dernière séance que j'avais avec ma thérapeute qui me disait « Maintenant que tu as travaillé sur tes problèmes et tout ça et que tu comprends un peu ce qui se joue en toi, qu'est-ce que tu veux faire ?» Je lui dis, tu sais, j'ai très envie de faire des études, mais ne me dis surtout pas de faire des études en MBA ou là, en économie ou là, qui était mon domaine de travail à ce moment-là. Je lui dis, je veux juste tout simplement faire des études pour d'ordre psychologique. Tu sais, c'est peut-être un rêve de petite fille parce que très petite, je voulais être psychologue ou quelque chose comme ça. Je n'avais pas d'idée précise, mais je voulais être ça. Et du coup, donc, j'ai commencé à faire les études et j'avais toujours un week-end par mois, parce que ça fait pratiquement 12 ans que je fais des études et je continue à faire des études. Chaque week-end que je passais, c'était vraiment pour moi une bouffée d'oxygène. Et ce week-end que je passais en formation me permettait de tenir toute la semaine, tout le mois, quoi.
Incroyable.
Et donc, ça, c'était la bouffée d'oxygène qui me permettait de tenir le mois, la bouffée d'oxygène qui me permettait de tenir le mois. Et puis, au bout de 10 ans, j'ai commencé à comprendre ce qui se jouait en moi. J'ai commencé à me dire, Kerima, tu n'es pas dans l'environnement qu'il te faut. Tu travailles dans un environnement qui ne ressemble pas à ton système de valeurs. Tu travailles dans un environnement qui n'est pas égal à tes valeurs. Il y a quelque chose qui doit changer. Bon, le pas était très, très difficile parce que, tu sais, laisser le gros salaire, les grosses conditions, tout le luxe,
oui, surtout qui vient avec ça,
pour aller se lancer dans l'aventure, ce n'était pas difficile. Je suis passée par une très belle dépression que je remercie aujourd'hui, que j'ai soignée moi-même grâce au sport.
Alors, quand tu dis dépression, c'est-à-dire quand tu as pris le choix de quitter ?
Oui, quand j'ai décidé de tout claquer, quand j'ai déposé ma dernière démission, en fait, c'était sur vraiment un coup de tête, mais bien réfléchi, parce que j'étais très, très, très mal dans là où j'étais. Et un matin, j'étais en plein comité, le directeur est en train de parler, et puis lui, il parlait, et moi, je me dis, qu'est-ce que je suis en train de faire ici ?
C'est pas pour moi.
Qu'est-ce que je fais dans cette boîte ? Qu'est-ce que je fais ici ? Je finis, je dis, vous avez fini ? Oui, oui, j'ai fini, je prends mon agenda, je descends chez moi, au bureau, et puis je dépose ma démission, et je sors.
Comment tu t'es sentie à ce moment-là ?
Très bien, très libérée. J'étais limite euphorique de cette décision, de ce courage que j'ai eu à prendre cette décision.
Pourtant, ça s'est traduit après par une dépression.
Oui, une dépression, mais comme j'avais fait quand même les études, le travail sur moi, parce que vous savez, pour devenir thérapeute, il faut faire un minimum de 200 heures de thérapie. Donc j'avais tout ce qu'il faut. En fait, j'avais fait tout le travail de nettoyage et d'introspection nécessaire pour pouvoir faire face à tout ce qui va venir. Donc du coup, j'ai fait cette dépression. Vous savez, c'est très simple, je dormais. Et quand je me réveillais le matin, ma tête était réveillée, mais mon corps ne me suivait pas.
Mais alors, c'est quoi ? Est-ce que c'était une forme de peur ? Qu'est-ce qui va se passer après ?
C'était un mélange de tout, parce qu'à un moment donné, tu te dis, qu'est-ce que je veux faire ? Moi qui étais toujours dynamique, toujours active, en train de courir et tout ça, me retrouver à la maison à ne rien faire, c'est quand même très
difficile. Ça fait peur. Ça fait très peur.
Très, très peur. C'est terrifiant. Et puis, un matin, je me suis dit, Kerima, tu as fait des études pendant toutes ces années. Tu sais faire des choses et tu sais comment sortir de cet état dans lequel tu es. Parce que j'avais compris ma dépression. En fait, j'avais compris que je passais par une dépression. Et je me suis dit, tu sais très bien qu'un des psychiatres américains avait dit qu'il ne donnait plus de médicaments pour les gens qui ont des dépressions. Il leur prescrivait des espadrilles. Donc j'ai pris mes espadrilles et je peux te raconter ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Je mettais mes vêtements de sport, je sortais, je prenais ma voiture et j'allais. À ce moment-là, je faisais du sport avec un coach sportif. Tout le chemin, je pleurais. J'arrive, je fais ma séance de sport et je rentre chez moi. Et quand je rentre chez moi, il m'arrivait de ne pas me doucher. Cette histoire a dû durer 30 jours, comme ça.
Ça, c'est la dépression.
La dépression parce qu'il a fallu faire tout le travail, parce que le travail, en fait, pour guérir de la dépression par le biais du sport, il faut faire l'exercice aujourd'hui, demain, après-demain, pendant au moins 45 jours, on va dire. Moi, au bout de 30 jours, c'est là où j'ai commencé à apprécier ce moment de sport et à sentir le besoin d'aller faire le sport. Ça veut dire que je ne me forçais plus. Et au bout de 45 jours, un bon matin, je me réveille, je me dis, Kerima, tu sais travailler, tu sais faire des choses, tu vas aller faire de l'associatif. Et à partir de là, je me suis lancée et tout est rentré dans l'ordre.
En fait, tu savais que tu ne pouvais plus rester dans cet environnement-là, mais démarrer une autre vie, c'est ça qui était compliqué. Et en fait, c'est ça qui est difficile. C'est quand tu sais que tu ne peux plus rester dans un environnement, mais que c'est compliqué aussi mais que tu ne sais pas faire autre chose, en fait. Que tu as toujours vécu selon cette routine-là. Comment trouver une nouvelle routine de vie ?
Exact.
C'est la peur de l'inconnu.
C'est la peur de l'inconnu. Et puis, c'est la peur d'aller vers quelque chose... c'est la peur de l'inconnu, voilà.
C'est la peur de l'inconnu. Tu l'as dépassée comment, cette peur ?
Écoute, c'est en faisant, comme je t'ai dit, j'ai exactement appliqué sur moi tout ce que j'applique aujourd'hui sur mes patients. Et j'étais très, très heureuse de me découvrir, de me dire déjà que ça marche, ça marchait sur moi, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur les autres. Et partager cette expérience avec mes patients au cabinet est quelque chose qui les intéresse, quoi. Ouais. Il m'arrive des fois de partager des petits moments de ma vie avec mes patients, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. C'est inspirant pour eux, quoi.
Alors, quand tu dis « j'ai appliqué sur moi ce que j'applique sur mes patients aujourd'hui », tu as appliqué quoi sur toi, en détail ? Ça a été quoi ta...
Ce que j'ai appliqué sur moi, c'est que j'ai installé de belles routines, qui est la routine du sport, et qui m'a aidée physiquement à dégager les hormones nécessaires pour pouvoir me sentir bien, pour pouvoir penser positivement, pour pouvoir prendre des actions, en fait. Toute l'idée est de prendre une action. Prendre l'action de bouger, parce que vous savez, l'unique constance est le changement. Et le cœur, quand il fonctionne, il monte et il descend. Quand il est en statique, c'est qu'il est mort. Donc le fait de bouger, ça redonne la vie, quoi.
Donc en fait, une personne qui s'arrête de travailler, qui ne sait pas ce qu'elle va faire de sa vie, première chose que tu lui conseillerais, c'est quand tu te réveilles le matin, tu mets tes baskets et tu sors.
Oui, en fait, il ne s'agit pas de conseils, c'est un travail que je fais. En fait, c'est un travail de fond. Ça veut dire que tous mes patients et toutes les personnes, moi, je conseille ça à tous les êtres humains sur Terre. Bouger, faire de l'exercice sportif, c'est limite égal à se nourrir ou boire de l'eau. Pour moi, c'est un must-have. Ça ne se discute pas. Mais bien sûr, c'est un process, parce que les gens qui ne font pas de sport, ils ne le font pas parce qu'ils n'aiment pas le sport ou ils ne veulent pas le faire, mais c'est parce qu'ils n'ont pas cette motivation. Et la motivation vient avec la discipline. Et c'est tout un travail, c'est tout un process. Ça veut dire que, par exemple, une des questions que je pose à tous mes patients, Zema, sans exception, c'est « Est-ce que tu fais de l'exercice sportif ?» Et à partir de là, c'est tout un travail de fond qui les aide à reprendre cette activité ou là, ce mouvement. Parce que le mouvement est très, très important.
Absolument. Marel, en termes de timing, est-ce que le meilleur moment de le faire, parce que ces gens ont l'habitude, et toi aussi tu avais l'habitude, le matin quand tu te réveilles, tu savais ce qui allait se passer dans ta vie. Tu te réveilles, tu te prépares, tu prends ton petit déjeuner, tu prends ta voiture ou là tu prends le transport, tu vas travailler. Quand on arrête de travailler, et quand on se réveille le matin, on ne sait pas forcément ce qu'on va faire.
Oui, l'une des choses qu'on peut faire par exemple, c'est d'aller faire de l'exercice sportif. Ça, on peut le faire par tous les moyens. En fait, qu'on ait les moyens ou pas, on peut le faire. Se chausser et aller sortir marcher pendant une heure, tout le monde peut le faire.
Absolument. Parce que ça permet aussi de régler en fait le rythme de la journée.
Moi, je leur dis, vous savez quoi, moi, quand j'ai des problèmes, quand j'ai des difficultés, tout ça, ce que je fais, c'est que je mets mes baskets et je marche. Quand je marche, ça me permet, comme je leur dis, nstuf afkari, tout simplement. Le fait de laisser passer ce qui va laisser passer, écouter ce qu'il y a à écouter, lâcher ce qu'il y a à lâcher, et tout ça, je le fais en marchant. Et ça aide.
Alors, Khalik, vas-y, je te laisse finir.
Je veux dire qu'il n'y a pas de temps spécifique à faire du sport. On le fait le matin, le soir. Pour moi, c'est une force. On fait du sport. L'essentiel, c'est de bouger.
Alors moi, j'ai entendu beaucoup de personnes dire justement, mais moi, ma journée, elle est rythmée par mon travail. Mais par contre, me réveiller et ne pas savoir ce que je vais faire, ça, c'est ma plus grande angoisse.
Oui, c'est une angoisse. Écoutez, justement, c'était mon angoisse à un moment donné, à un temps T. Comment je l'ai réglé? Je l'ai réglé en faisant ça. Je me réveille le matin, la première des choses que je fais après avoir fait ma prière, je sors faire mon sport. Ça m'a aidé, moi. Je l'ai fait pendant 35 jours, exactement. Le 35e jour, je me sentais vraiment différente. Je sentais que j'avais envie de repartir faire du sport le lendemain.
Ouais.
J'avais envie de repartir. Et c'est physique, c'est chimique. C'est des hormones qui sont sécrétées au niveau de la tête et qui font que on se sent mieux, on pense positivement. Et ça, c'est prouvé scientifiquement, quoi.
Absolument. Alors, maintenant, toi, pendant 29 ans, tu as bossé au sein de multinationales, tu avais ton nom, tu avais ta fonction, tu avais ta position. Là, il a fallu se faire une nouvelle réputation. dans un domaine complètement différent, celui de l'accompagnement.
Exact.
Voilà. Tu as fait comment,
exact.
Justement, pour tout reprendre à zéro?
À zéro. Bah, écoutez, j'ai fait des études, je me suis formée et ensuite j'ai fait un travail sur moi. Comme je t'ai dit, un psychothérapeute, contrairement à toute autre pratique, il a besoin et c'est nécessaire pour avoir son diplôme. Il doit avoir fait au moins 200 à 300 heures de thérapie sur lui. Donc j'ai fait un travail sur moi.
Ça c'était même pendant que tu travaillais?
Ah oui, quand je travaillais, quand je faisais mes études, au fur et à mesure. Ça se fait sur 10 ans. D'ailleurs, les études en psychothérapie, ils se font au bout de 5 ans. Donc, pendant ces 5 ans, on est tenu de faire des heures de thérapie sur nous. C'est très important parce que, de toutes les manières, comment je pourrais, moi, écouter quelqu'un qui a un problème, je ne sais pas, n'importe lequel, et d'autant plus que dans mon cabinet, je reçois beaucoup de gros traumas, pas les petits traumas, quoi, c'est les viols, les incestes et tout ça. Comment je pourrais écouter quelqu'un qui a subi un viol si moi, j'ai subi un viol et que je n'ai pas travaillé, Mathélène? C'est un exemple.
Exact.
Si... Voilà, donc il faut absolument que j'ai fait tout le travail sur moi pour pouvoir être à l'écoute, dans la bienveillance et surtout être présent. Parce que, vous savez, comme je suis psychothérapeute humaniste, dans notre façon de faire, on est juste là, présent. On écoute l'autre. D'accord, c'est tout le travail. Et vous savez, et ça, je remercie vraiment le travail associatif parce que ça m'a aidé vraiment à découvrir mes talents. C'est qu'il m'arrivait, par exemple, de recevoir des femmes en association que je ne faisais que écouter. Et qui, à la fin de la séance, ils me disent « Madame, est-ce que je peux vous prendre en mes bras ?» Je leur dis « Oui, bien sûr. » Vous savez, jamais personne ne m'a écouté comme vous l'avez fait. Rien que le fait de les écouter, ça leur permet de prendre conscience, de libérer des choses et tout ça.
Absolument.
D'accord, donc, et comme je t'ai dit, donc j'ai commencé par l'associatif, et puis j'ai commencé par ma famille, mes amis et tout ça. Et puis par après, alhamdoulilah, je me suis associée avec une médecin de la place et ça se passe très très bien, alhamdoulilah, aujourd'hui.
Le deuil de la réussite professionnelle, le salaire, etc., ça tu l'as géré comment ?
Franchement, en fait, ça n'a pas duré très longtemps. Moi, cette histoire, elle a dû durer 6 ou 7 mois parce que j'avais tout préparé avant. J'avais fait mes études, j'avais plusieurs spécialités. J'ai fait la thérapie du couple, je suis hypnothérapeute, je suis spécialisée en hypnose régressive. J'avais fait un travail en emotional freedom thérapie de couple. Donc, j'avais vraiment fait tout j'avais une assise, on va dire. J'avais un background très important sur le plan connaissance. Tout ce qu'il me fallait, c'était de le mettre en pratique. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. J'ai commencé par l'associatif, puis j'ai commencé à recevoir des clients crescendo de manière à ce que... déjà, le bouche à oreille, ça aide beaucoup, parce que les gens, quand ils passent et qu'ils se sentent mieux, ils en parlent autour d'eux. D'ailleurs, j'ai plusieurs personnes qui se connaissent, ou là, des amis, ou là, des groupes d'amis, ou là, des cousins et cousines. L'un recommande à l'autre et tout ça. Et voilà.
Ça t'a appris quoi sur toi, cette traversée, ce voyage?
Ce que ça m'a appris sur moi, c'est que, comme je dis toujours, sky is the limit. Il n'y a pas de limite. On peut tout faire dans cette vie. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, les études, ce n'est pas fini. Je suis en train de préparer une licence en sciences sociologiques.
Magnifique.
Donc, et ça, c'est 54
pour...
ans.
À 50... Et ça, c'est pour en faire quoi, justement?
Pour me nourrir, je le parle toujours de la nourriture de l'esprit, c'est l'ilmu ta'allum, parce que qu'est-ce que je vais faire si je n'apprends pas quelque chose de nouveau? C'est juste magnifique. Je me retrouve sur les bancs de l'école, en fait de la faculté, avec des jeunes de 20 ans, ça me nourrit, j'apprends énormément de choses et c'est juste magnifique, quoi.
Lala Kariman, justement.
Oui.
Toute cette traversée-là, comme tu l'appelles, la traversée des ténèbres. Ténèbres, c'est très grand, c'est très lourd comme mot. De se dire quand même, pendant 29 ans, ça a été les ténèbres.
Oui, mais il n'y avait pas que des ténèbres. Mais quand je dis ténèbres, ça veut dire qu'il y a le volet professionnel, il y a aussi le volet personnel. J'ai eu des expériences de vie très, 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 très dures. Mais j'en fais aujourd'hui une force. Merci à toutes les expériences que j'ai eues dans ma vie de couple, dans ma vie personnelle, en tant que fille, que femme, qu'épouse, que tout ce que vous voulez, quoi. Donc,
Tu as donné des... Tu as ouvert les yeux à ton entourage sur, justement, les changements de cap de vie?
Oui. D'ailleurs, je n'ai pas d'enfant, comme je t'ai dit, mais j'ai 10 neveux et nièces. Qui sont ma source d'inspiration et je suis leur copine, leur tante, leur psy par moment. Et puis ça, c'est hyper intéressant. Je vois un peu leur évolution et à travers mon évolution aussi.
Et alors ça, c'est les jeunes, les moins jeunes.
Aussi, bah, j'ai des... Vous savez, je suis une fille unique d'une fratrie de 4 grands frères. Donc,
ouais.
Et eux aussi, ils prennent conseil sur moi quand ils veulent et quand ils en ont besoin et quand ils demandent surtout.
Tu aurais voulu, en fait, t'épargner ces 29 ans d'entreprise et avoir très vite vécu ce
du
que
tout,
tu as... Non
du tout. C'est une expérience qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de regret. Y a pas de... Non, pas du tout. J'ai appris des choses sur moi. En fait, l'apprentissage, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire,
ouais,
tout simplement.
Absolument.
Il n'y a pas de limite. On peut tout faire dans cette vie. Et tant qu'il y a de la vie, et il y a de l'espoir. Et puis, le hadith qui dit « c'est exactement ma devise, quoi. J'apprends tous les jours des choses sur moi. J'apprends de tous les jours, dans tous les domaines. Alhamdoulilah, je ne finirai jamais d'apprendre.
Eh bien, c'est super. Lalla Karima, Nahia, merci infiniment d'avoir été ma femme
merci
d'aujourd'hui.
Merci à toi, ma belle. Merci beaucoup.
Merci pour tout. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.